La masse de Clavisol, un micro pour un établissement nouveau.
Bonjour Charline, pouvez-vous vous présenter rapidement votre structure et votre rôle dans celle-ci?
Bonjour, donc moi je travaille pour une association qui s'appelle IREPS. Donc c'est une association qui fait de l'éducation et de la promotion en santé sur tous les sujets de santé. Donc alimentation, santé environnement, développement durable, petite enfance, etc. Et donc en partie la santé mentale aussi. Donc moi je suis psychologue sociale de formation et je travaille dans cette association en tant que chargée de projet. Donc j'accompagne des structures, des professionnels et des personnes à monter des projets sur la thématique de la santé mentale. Donc des formations, des animations, ce genre de choses.
Et pour vous Yann, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre structure espère et votre place dans celle-ci?
Bonjour, je suis Yann Dante, je suis directeur PR, PAIR. Ça sent à la radio, je précise bien, parce que ça pourrait porter à... Je pourrais pas comprendre. On va parler un peu de la pair aidance après, donc je vais peut-être pas trop vous rentrer dans les détails là-dessus. Donc, je suis directeur, j'étais coordinateur il y a peu de temps, et je suis membre fondateur de cette association. On est une association sur le Rhône qui intervient dans le champ de la pair aidance en santé mentale. Donc, on vient en aide, pour vous la faire très courte, en accompagnement auprès de personnes, auprès de groupes ou de personnes en individuel qui vivent avec des troubles psychiques et neurodéveloppementaux.
Et enfin vous, Marie-Christine, présentez-nous la coordination 69, soins psychiques et réinsertion, dont vous êtes présidente et ce que vous y faites.
Alors bonjour, la coordination 69, c'est une association qui existe depuis une bonne quinzaine d'années et qui regroupe sur le territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon un grand nombre de structures en santé mentale, aussi bien des structures sanitaires comme les hôpitaux ou les structures ambulatoires de santé mentale, ou bien des structures qu'on appelle médico-sociales, qui sont des structures d'accompagnement ou d'hébergement des personnes, comme par exemple la masse de Clavisol. Et puis, dans cette association, il y a également une association de famille, une association d'usagers qui s'appelle la FNAPSI. L'association de famille, c'est l'UNAFAM. Et puis, on a également ce qu'on appelle les groupes d'entraide mutuelle, qui sont des sortes de clubs où les personnes qui vivent avec des troubles psychiques se regroupent pour pouvoir avoir des activités entre elles. Voilà. Et quelles sont un petit peu les actions de coordination 69? Nos objectifs sont d'abord de promouvoir la place des personnes concernées par des troubles psychiques dans la société, promouvoir leur place, lutter contre la stigmatisation et puis permettre aux structures de mieux se connaître entre elles et de pouvoir mieux accompagner les personnes en se coordonnant.
Marie-Christine, pouvez-vous nous donner une rapide définition de la maladie mentale?
Alors ça, c'est une question très compliquée. D'abord, je crois qu'il faut se dire que, avant de parler de maladie, il faut parler de santé. Tous, on a une santé, on se sent en bonne santé ou quelquefois pas forcément en bonne santé parce qu'on a des problèmes plus ou moins graves. Et avec la maladie mentale, c'est la même chose. On ne peut pas dire qu'il y a une maladie mentale, il y a un grand nombre de maladies mentales. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, un petit peu comme dans les problèmes physiques, hein, si je peux prendre par exemple un exemple, si vous faites une grande balade, une très très grande balade, et que vous vous fatiguez beaucoup, en rentrant, vous aurez des courbatures, vous aurez mal un petit peu à un certain endroit du corps, vous aurez envie de vous reposer. Ça, c'est quelque chose de naturel, ça ne veut pas dire que c'est une maladie. Par contre, si dans le cours du trajet, vous tombez, vous vous faites mal avec, avec une branche d'arbre par exemple, et que effectivement vous rentrez chez vous avec le besoin d'aller consulter un médecin, de pouvoir effectivement vous soigner, eh bien là, il y a effectivement un problème de santé, un problème de maladies ou d'accidents. Bah, avec la santé mentale et les maladies mentales, c'est un petit peu la même chose. Il faut se dire aussi que les maladies mentales, elles sont d'intensité variable. Il y a des problèmes de santé mentale qui sont éphémères, c'est-à-dire qui sont de courte durée, qui sont pas très graves, qui n'interfèrent pas avec la vie quotidienne, en tout cas pas de manière pérenne. Et puis il y a aussi des maladies beaucoup plus sévères qui ont un retentissement important sur la vie quotidienne et qui peuvent entraîner effectivement un certain niveau de handicap.
Ces maladies mentales sont-elles génétiques, héréditaires, contagieuses ou liées à l'environnement général comme des problèmes familiaux ou de cœur, du travail aux guerres.
Alors j'ai envie de dire que c'est un petit peu tout à la fois. Parce qu'effectivement, des personnes qui vont développer des troubles psychiques, des maladies mentales, très souvent, chez ces personnes, il y a effectivement une prédisposition, une fragilité qui peut être inscrite effectivement dans les gènes. Du coup, c'est effectivement, il peut y avoir un certain degré d'hérédité sans qu'il soit absolu. C'est vrai, par exemple, que chez les vrais jumeaux, quand il y en a un qui a une maladie mentale, le deuxième a plus de chances, plus de risques, plus exactement, d'avoir aussi une maladie mentale. Mais c'est pas indispensable, c'est pas absolument vrai dans 100% des cas. Les maladies mentales ne sont absolument pas contagieuses, mais elles peuvent être effectivement liées à l'environnement. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, il y a effectivement une certaine prédisposition qui peut être inscrite dans le corps, à travers les gènes, à travers un certain nombre de difficultés, mais qui peuvent aussi être découvertes, qui peuvent entraîner des crises à l'occasion, effectivement, d'événements de vie, comme un deuil, comme un accident, comme un échec, comme effectivement un problème de cœur, comme un problème au travail. On parle beaucoup maintenant de qualité de vie au travail. C'est vrai que lorsque au travail, on est trop stressé, lorsque le travail est compliqué, ça peut éventuellement entraîner effectivement des troubles psychiques. Et puis bien sûr, les guerres ou tous les traumatismes qui peuvent exister dans la vie peuvent entraîner aussi des traumatismes psychiques qui peuvent ensuite déclarer des maladies mentales.
Comment peut-on diagnostiquer ces maladies mentales et peut-on prévenir et éviter l'apparition de ces maladies ?
Alors, diagnostiquer les maladies mentales, la première des choses, c'est effectivement rencontrer la personne, l'écouter, essayer de comprendre comment elle souffre, comment elle fonctionne. Et le diagnostic va se faire beaucoup sur cette rencontre avec le patient, sur son histoire, sur quels événements de vie ont pu être marquants pour lui, et puis sur, effectivement, quels sont les éléments qui vit actuellement, enfin, dans la rencontre, et qui sont effectivement compliqués. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent entendre des voix, il y a des personnes qui peuvent avoir beaucoup de mal à se concentrer, il y a des personnes qui peuvent être extrêmement tristes, il y a des personnes qui peuvent avoir envie de se suicider, il y a des personnes qui peuvent être extrêmement mélancoliques, il y a au contraire des personnes qui peuvent être très agitées, qui peuvent être très, au contraire, quelquefois trop euphorique, etc. Donc il y a plein de symptômes qu'on va rechercher pour essayer de diagnostiquer une maladie mentale. Et puis il y a également, aujourd'hui on a de plus en plus de tests qui permettent aussi de mesurer de manière un peu plus précise et objective un certain nombre de fonctionnements psychiques. Je n'ai pas parlé de la prévention. C'est vrai que pour prévenir des maladies mentales, c'est important de bien se connaître, de vivre dans un environnement qui est bienveillant et avec lequel on va construire une relation positive. Donc c'est extrêmement important, par exemple, que dans les familles, il y ait une bienveillance mutuelle qui permette à chacun d'y trouver sa place. C'est important qu'au travail, on n'est pas non plus, on ne vive pas dans un stress permanent. C'est important que dans la société, il y ait une manière de vivre qui permette effectivement d'éviter de se trouver dans des situations de stress qui peuvent déclencher, en tout cas qui peuvent favoriser, qui peuvent aggraver des problèmes de santé mentale et de maladies mentales.
Yann, pouvez-vous nous dire si ces maladies peuvent se soigner ou parle-t-on plutôt de rétablissement ?
J'aurais bien aimé qu'elle puisse se soigner. À l'heure actuelle, moi, je suis une personne concernée par un trouble psychique, donc père aidant. J'ai pas la connaissance académique de la chose. Je sais juste de ce qu'on m'en a dit, que dans l'état actuel de la science, on peut, oui, s'en rétablir. Être soigné, être guéri de la maladie, du trouble psychique, pour le moment, les travaux sont en cours et peut-être que dans un futur, ça se fera. pour le moment, on n'est pas encore là. Dans la plupart des troubles, il y a souvent une exception qui va confirmer la règle, mais pour le moment, statistiquement, ça reste plutôt une exception, la guérison. On peut appeler ce qu'on appelle les rémissions de symptômes, c'est-à-dire qu'on peut stabiliser et enlever ou abaisser la plupart des symptômes, mais se soigner, c'est-à-dire faire disparaître vraiment la maladie, j'ai pas la réponse. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a en ce moment, malheureusement. Par contre, on peut se rétablir de la même manière que quelqu'un qui a malheureusement, qui perd un membre, par exemple, un bras, une jambe. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à reprendre une vie normale en perdant l'usage et en apprenant à remarcher avec une seule jambe. Il y a des gens qui arrivent avec de l'accompagnement à avoir une attelle bien adaptée, à faire de la rééducation et à réapprendre à marcher et même à courir et même à faire les Jeux paralympiques. De la même manière, là c'est un peu plus subtil sur les troubles psychiques, leur rétablissement il vient se mettre dans des interstices qui sont moins palpables, parce que là je vous ai pris l'image de la jambe, c'est très concret. De la même manière, en fait, on pourrait avoir l'impression qu'avec une maladie mentale, on est un peu condamné, je mets des guillemets à la radio avec mes doigts. En fait, non, pas du tout. Il y a eu longtemps ça qui était dans l'inconscient collectif. On pensait que on était voué à avoir une vie complètement reclue, enfermée, sans lien social, sans vie familiale, sans travail. Le rétablissement, en fait, ça va être juste de remettre un peu la maladie à sa juste place. C'est-à-dire, moi, à titre personnel, par exemple, je vis avec un trouble bipolaire. Je ne suis pas bipolaire et je ne souffre pas de bipolarité. Il y a 10 ans, je souffrais de quelque chose, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai eu un diagnostic. Derrière, j'ai pu considérer que je souffrais de ça, que je souffrais de bipolarité. Au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais en fait, je suis bipolaire, en fait. Moi, je suis complètement bipolaire, un peu de partout, en moi, dans ma tête, quoi. Ça conditionne toute ma vie. Et il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, je vis avec un trouble bipolaire qui est là. Je l'ai un peu sur le dos, sur l'épaule. Un peu comme dans les représentations du petit ange, du petit démon là, qu'on peut avoir qui nous parle à l'oreille, un peu, qui vient conditionner mes émotions, mes humeurs, ma façon d'être au quotidien, ma façon même depuis le lever du matin jusqu'au coucher. Mais je me suis mis à organiser toute ma vie et à avoir remonté les manches pour que ça reste juste une composante et pas plus. De la même façon, par exemple, quand quelqu'un aurait... chez les enfants, par exemple, quand un enfant a du mal à se concentrer. Ça, c'est possible de réapprendre à se concentrer en utilisant différentes méthodes et en faisant un travail sur soi. Ça demande souvent du boulot. Le rétablissement, ça va être depuis le lever jusqu'au coucher, avoir la possibilité de vivre avec un trouble psychique, mais de conduire une voiture. Parce que ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas il y a encore assez peu de temps. Hein. On avait des médicaments notamment qui étaient tellement forts qu'on ne pouvait même plus être en état de conduire ou d'avoir des enfants, une vie de famille et tout ça. Le rétablissement, ça va être reprendre en fait, remettre la maladie à sa place, c'est-à-dire une place qui n'est pas annexe, hein, parce que je vis avec toute la journée quand même, donc c'est une place qui est conséquente, mais avoir le dessus, réactiver le pouvoir d'agir, d'être en capacité de dire ça je veux le faire, ça je peux le faire, ça je sais le faire, là, j'arrive à un point de fragilité, donc là, je fais attention. Et en fonction de ça, composer. Et donc, d'apprendre à composer. C'est que c'est un processus quand même d'apprentissage aussi, dans l'action, et qui se fait souvent avec de l'aide, avec un accompagnement. Ça ne se fait pas d'un coup de cuillère à peau. C'est rare que les gens arrivent à le faire tout seuls. C'est souvent avec l'aide de pairs, de semblables, PAIR, encore une fois, de personnes proches ou des professionnels, qui vont réussir à activer, à réactiver ça et à sortir de l'isolement et à remettre du sens à leur vie. On n'est pas juste, du coup, dans une idée de stabiliser. On est bien dans une idée de mettre du sens, de remettre du punch et quelque chose qui nous stimule dans la vie et qui fait sens.
Voilà. Un suivi médical est-il obligatoire ou un malade peut-il guérir ?
J'ai répondu un petit peu là tout à l'heure. Moi, du coup, comme je ne suis pas médecin ni psychologue et tout, je ne suis pas compétent pour répondre sur l'aspect académique. Donc, je réponds juste sur mon aspect. J'ai longtemps cru, moi, à titre personnel, que ce que je vivais avec une maladie qui était si grave que je pourrais jamais en guérir. Mais le paradoxe, c'est que du coup, je ne voulais même pas m'en soigner. Parce que comme j'étais condamné, je ne voulais même pas prendre de médicaments, parce qu'il fallait plutôt nier tout ça et dire non, je le mets sous le tapis. Du jour où je me suis mis à prendre le problème sur un autre angle, à savoir l'idée, c'est pas de guérir, mais de composer, de faire avec et de dépasser ça et de surmonter l'épreuve. Là, j'ai eu une autre approche, à même plus me demander si j'en guérirai un jour, en fait. parce que c'est même plus le problème, en fait. Un peu comme quelqu'un qui vit avec un diabète, qui doit regarder, surveiller son sucre. Je ne sais pas si vous avez des personnes dans votre entourage qui vivent avec le diabète. Bah, ils vont être hyper vigilants, ils vont apprendre à gérer ça. Mais il y a un moment où ils ne vont pas conditionner toute leur vie à ça. Et ils savent bien que l'idée, ce n'est pas d'en guérir ou pas, c'est juste de vivre avec. Voilà. Et vivre au mieux, quoi, bien sûr. Et sur la partie suivi médical obligatoire, il y a différentes écoles de pensée là-dessus. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que oui, ça, c'est important. Et je pense que le mot obligatoire, c'est intéressant que vous l'ayez formulé comme ça. Du jour où on m'a dit que c'était obligatoire, moi, je ne voulais pas avoir de suivi médical. Parce que, du coup, je suis resté pendant 17 ans sans traitement et 17 ans sans soins. J'ai commencé un traitement à 37 ans. Donc, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie que j'aurais peut-être pu faire différemment si j'avais eu ce traitement avant. Il n'est peut-être pas obligatoire, mais il est obligatoire de le prendre en main. Que nous, en tant que personnes concernées, on ne soit pas juste des patients. On ne s'assoit pas juste patiemment dans un coin à ouvrir la bouche et à prendre le traitement. Donc ça, oui, c'est obligatoire que nous, on se bouge pour s'approprier ça, savoir quels sont les effets secondaires, savoir que le traitement, il a des effets positifs, des effets un peu plus secondaires, un peu plus négatifs, mais qu'on se les approprie. Et de le rendre obligatoire, ça après c'est un autre débat juridique et éthique sur lequel chacun aura son positionnement. Tu penses ?
Comment qualifier les personnes ayant des maladies mentales ? Des malades mentaux, des déficients, des fous ou encore des personnes avec un handicap ?
Alors j'hésite parce que du coup moi je me suis qualifié un peu avec tout ça quand je pensais aux autres parce que la stigmatisation, le fait de conditionner un peu négativement comme ça les gens en fonction de leur apparence physique, leur couleur de peau, leur genre, leur sexualité, leurs troubles, leur handicap et tout ça. Et dire, ouais, eux, ils ne sont pas comme nous. Du coup, on les met un peu là. Dans ma tête, je me dis, lui, je me comporte un peu différemment. Je fais un pas de côté. Je le stigmatise. Elle est souvent aussi internalisée. Ce mécanisme, et nous-mêmes, en tant que personne concernée, je me suis considéré comme un malade mental. Quelqu'un qui pouvait même être dangereux pour les autres. Juste quand je commençais à m'énerver, alors que je tapais personne, hein. Jamais. Mais j'avais même peur d'être dangereux pour les autres. Parce que je m'étais conditionné au fait que ça, potentiellement, de ce que j'avais vu des films, de ce que je connaissais, du foyer quand j'étais enfant, c'est d'ailleurs rigolo parce que j'ai grandi à côté d'un foyer avec des personnes avec des déficiences intellectuelles et ils me faisaient vachement peur et en même temps ils m'attiraient beaucoup parce que j'avais toujours envie d'aller leur parler, je savais jamais bien comment en fait. Et on les appelait un peu les fous, on trouvait plein de noms, mais on n'allait jamais leur parler. Mais du coup, en même temps, moi j'aime bien qu'on me qualifie en m'appelant par mon prénom. Voilà, maintenant. Et je pense que la personne dans le parc à côté de qui je vivais, je l'aurais appelé Pedro ou Mohamed ou Justine par son prénom et j'aurais essayé d'apprendre à la connaître. Peut-être que c'était basiquement ce qu'elle aurait voulu, parce que la question c'était comment qualifier les personnes, leur demander comment ils veulent être appelés. En général, c'est souvent par leur prénom. Vous voyez l'idée ? C'est-à-dire, du coup, derrière la maladie, il y a quand même énormément d'autres aspects. Le Pedro en question, peut-être qu'il est amateur d'échecs, ou peut-être qu'il adore le cheval, et c'est peut-être ça qui va le conditionner dans votre regard. Vous en ficherez qu'il ait une maladie mentale à l'arrivée.
Les personnes accueillies à la MAS sont des résidents. Ils peuvent faire différentes activités, comme recevoir la visite de leurs proches, sortir dans le village, faire des courses ou se balader, entretenir le jardin de la MAS. Une autonomie est donc possible. En dehors de la MAS, quelles autres activités peuvent être réalisées par des personnes ayant des maladies mentales ?
Je souris parce que... comment vous dire ? Il y a plein de façons, en fait, de vivre un trouble psychique. Il y a des personnes, en fait, qui vont garder un peu plus d'autonomie, d'autodétermination, de capacité à faire les choses que d'autres. D'autres qui vont avoir des médications super lourdes et qui vont les empêcher de se concentrer, qui vont avoir des endormissements, des somnolences, qui les empêchera de conduire, par exemple, ou même d'avoir un travail sur une machine agricole. Et du coup, dans les activités, en fait, la gamme, elle est infinie, en fait. Moi, je suis venu, j'ai traversé des bouchons pour venir. Ça m'a stressé un peu, mais ça m'a pas, je ne me suis pas arrêté sur le bas-côté en me tapant la tête contre la balustrade. J'ai fait comme tout le monde, j'ai mis un radio classique ou radio jazz, un truc qui m'a apaisé. Et puis voilà, j'ai fait la route et j'ai mis une heure et demie pour venir ici. Et d'ailleurs, je suis bien content d'être là. Mais pour vous dire qu'en gros, cette activité-là, il y a 5 ans, je ne pensais pas pouvoir la faire un jour à nouveau. Je ne pensais pas pouvoir retraverser les embouteillages. Donc du coup, ça va beaucoup dépendre du chemin de rétablissement de la personne. Et le simple fait, par exemple, d'entretenir un jardin peut avoir donné envie, après, d'aller voir ce qui se passe derrière la colline et 2 ans plus tard, de faire une randonnée de 25 km, alors qu'avant, on avait du mal à marcher 2 km. Parce qu'on s'est dit, tiens, il y a peut-être d'autres jardins ailleurs à aller voir. Enfin, du coup, tout ça, c'est progressif, mais c'est infini. Et c'est la bonne nouvelle, on n'en guérit pas spécialement. Par contre, le chemin de rétablissement, il est infini. On peut aller, comme vous tous, dans la pièce, partout où on arrivera à aller en se bougeant.
Pour Esper, comme pour Coordination 69, les personnes concernées par la maladie mentale ont une place importante. Diriez-vous que cette implication a une forme thérapeutique ?
Nous, à notre niveau, en fait, la façon dont on va donner de la place aux personnes concernées, on va intervenir par rapport à des formations, par exemple. Des formations qui vont venir stimuler les personnes dans leur pouvoir d'agir, dans leur capacité à venir mobiliser leurs ressources et tout ça. Notamment, ça peut être communiqué dans le public, par exemple, à l'oral. On a déjà intervenu là-dessus. On fait des formations, des sensibilisations au rétablissement auprès des personnes. Donc oui, vu les résultats des moments qu'on a à la sortie de ces séances, je pense qu'il y a une thérapeutique, si on prend le mot dans le sens large, dans le sens faire soin. Donc tout comme, je veux dire, moi j'avais un chien dans le temps, il était thérapeutique pour moi. On s'est reconnu scientifiquement que la zoothérapie, hein, le fait simple. Donc du coup, il y a énormément de choses qui sont thérapeutiques. Le simple fait qu'une personne qui a déjà traversé, je pense, nous comme on est dans le champ père aidant, on a déjà traversé des grosses galères dans le chemin de soins et le chemin de rétablissement, et on vient aider d'autres personnes qui sont sur ce chemin, il y a quelque chose qui va redonner un espoir colossal, souvent, par le simple fait que ça existe. Ils disent « Ah ouais !» On n'est pas condamné, entre guillemets. Je refais les guillemets. Et du coup, oui, c'est hyper thérapeutique. Et pour nous, en tant qu'aidants, quand on vient aider les personnes qui ont sur un chemin par lequel on est passé, nous aussi, c'est ultra nourrissant en termes de retour, d'avoir l'impression de faire quelque chose qui a du sens, pour le coup. Donc, il y a un cercle vertueux, je pense, qui s'engage là-dessus. Dans les GEM, dans les groupes d'entraide mutuelle, on peut trouver ça aussi sur une forme d'entraide entre pairs, et dans les collectifs également.
Marie-Christine, voulez-vous compléter ce qu'en a dit Yann ?
Alors moi, je voudrais juste revenir sur un mot que Yann a dit par rapport à son histoire, en particulier par rapport au très long temps qu'il lui a fallu avant d'accepter de se soigner. Et c'est vrai que pendant très longtemps, vivre avec des troubles psychiques, avoir le sentiment effectivement qu'on a une maladie mentale, qu'on devient fou, c'était absolument désespérant. Aujourd'hui, avec l'évolution à la fois des traitements médicamenteux, mais aussi de la prise en charge, de l'accompagnement, des structures qui existent, de la pair aidance, etc., Yann l'a très bien expliqué, on peut tout à fait se rétablir et vivre une vie avec sa maladie comme n'importe quelle autre maladie chronique, comme un diabète, ça a été dit. Et du coup, c'est très important de communiquer sur ces questions-là, parce que du coup, des personnes qui, il y a encore 20 ans, 30 ans, mettaient 15 ans avant de se soigner, aujourd'hui, il est extrêmement important qu'un jeune qui commence à sentir qu'il y a des choses qui se troublent dans son psychisme, dans sa vie psychique, c'est extrêmement important de demander de l'aide le plus rapidement possible pour pouvoir se soigner et du coup pour pouvoir se rétablir le plus vite possible et éviter, et on peut aujourd'hui éviter avec toutes les prises en charge qui existent, éviter qu'apparaissent par exemple des situations de handicap. Et ça, c'est absolument majeur pour les jeunes.
Quelle place ont les familles et les aidants familiaux à Coordination 69 ?
Alors, ben, je l'ai dit tout à l'heure, les aidants familiaux participent à Coordination 69 à travers leur association Lunafam. Les personnes concernées aussi à travers leur groupe d'entraide mutuelle, à travers leur association, en particulier ce qu'on appelle la FNAPSI, qui est la Fédération des personnes ayant vécu des troubles psychiques. Ils ont une place primordiale parce que justement, et ce que vient d'expliquer Yann est tout à fait important, à travers leur vécu, à travers leurs expériences, ils permettent vraiment de beaucoup mieux comprendre ce dont ont besoin les personnes concernées et comment on peut faire évoluer la société pour que les personnes concernées par des troubles psychiques puissent y vivre comme tout le monde.
Yann, ESPER est composé de personnes concernées qui se professionnalisent à travers la pair-aidance. Décririez-vous ce terme ? Comment décririez-vous ce terme ?
Alors, pair-aidance, donc PAIR, on est bien dans le champ de mon père, mon semblable. Aidance, de la relation d'aide, de l'accompagnement. Il y a des champs dans la pair-aidance qui peuvent se faire dans le bénévolat ou dans la professionnalisation. Dans le bénévolat, c'est quelque part un peu ancestral, en fait, parce qu'on s'entraide entre pairs, entre semblables, depuis la nuit des temps, à l'échelle de l'humanité. On imagine bien, je veux dire, pour des enfants comme pour des adultes, c'est le simple fait que quelqu'un qui ait déjà passé un chemin sur quelque chose, capte quelque chose et qui puisse dire à quelqu'un d'autre « Ah, oh, tu veux un petit coup de main sur quelque chose où là, je vois que tu galères un petit peu ?» Et c'est basiquement ça, en fait. Donc, on vient le faire dans une relation d'accompagnement, ça ne se fait pas sur 10 minutes. Et ça peut se faire sur beaucoup de champs. Donc la pair-aidance, le point qu'on a en commun, c'est qu'on vit avec un trouble psychique, parce que là, on parle dans, bien sûr, le champ santé mentale. La pair-aidance, ça se fait dans d'autres champs aussi. Donc là, dans le champ de la santé mentale et donc tout ce qui est troubles psychiques et neurodéveloppementaux, donc tout ce qui est autisme, TDAH, on intervient donc sur le principe qu'on a vécu quelque chose, en général, pas pendant 2 mois, hein, on parle d'un vécu qui s'est installé dans le temps, qui a dégagé une souffrance, de l'isolement, des fragilités qui se sont installées aussi dans le temps. Et dans ce champ-là, du coup, on n'a pas que le champ, parce qu'on pense toujours, souvent aux troubles psychiques sous l'angle, ce qu'on disait, le fou. Voilà, un peu le cliché de quelqu'un qui est très extraverti, dans sa folie, entre guillemets. Hein. Il y a énormément de troubles psychiques beaucoup plus discrets, en fait, aussi, où la pair-aidance va pouvoir être utile. Et donc, on a fait ce chemin, on a fait un chemin de rétablissement, et on s'est dit, on s'est rendu compte, souvent, les pair-aidants, dans la relation d'entrée d'entre pairs, comme dans le collectif, par exemple, de Marie-Christine, de coordination 69, que le simple fait, en fait, d'être avec les autres, déjà, nous faisait beaucoup de bien. Et que le fait de, tiens, quand je suis un peu utile, même 10 minutes dans la journée, je rentre chez moi, je me sens mieux, je suis curieux. Ça me donne envie de revenir le lendemain. Toc, toc, toc. Donc, il y a quelque chose qui s'opère dans l'entraide entre pairs pour sortir de l'isolement, déjà. Et d'avoir une reconnaissance des autres. Ce qu'il faut bien... Enfin, en fait, on souffre beaucoup moins de la maladie mentale que du regard des autres. Et de, potentiellement, qu'est-ce qu'ils vont penser si je dis ça ? Ah tiens, qu'est-ce que j'ai encore dit ? Et tiens, est-ce que mes voix me l'ont dit ? Ou c'est les gens qui me regardent comme ça ? Et est-ce que c'est moi qui délire ? Ou est-ce que c'est... Tout ça, c'est souvent lié aux autres, en fait. Il y a souvent quelque chose qui fait qu'on est amené à s'isoler beaucoup. À beaucoup s'isoler, mais pas pendant 2 jours. Pendant des mois, des années, des dizaines d'années. Tous ces groupes d'entraide et la pair-aidance, l'idée, c'est de réactiver ça en redonnant de l'espoir, en faisant le lien, du coup, pour retrouver le goût de sortir, pour aller vers les équipes de soins, les travailleurs sociaux, la famille, parce que c'est pas rare qu'il y ait qu'on se coupe un peu de la famille ou qu'il y ait des parasitages là-dedans, retrouver des groupes d'amis, et ça passe parfois, mais pas forcément toujours, par d'autres personnes qui ont des troubles psychiques. Des fois, ça va être d'autres personnes amateurs d'échecs, comme je vous disais, ou voilà. Et du coup, ça peut se faire dans le champ du soin pur, c'est-à-dire reprendre la capacité à prendre un traitement seul, on peut aider à ça. On n'est pas médecin, on va pas vers des prescriptions, bien sûr, hein, mais on pourra restimuler la personne pour voir un peu, tiens, qu'est-ce qui fait frein, qui fait barrière, ou qu'est-ce que j'ai comme ressource pour prendre un traitement tout seul. Tout comme jusqu'à aller, je voudrais reprendre un boulot, et tiens, comment je pourrais faire ? Ça fait 30 ans que je n'ai pas travaillé. Et d'aider quelqu'un là-dessus, par exemple. Mais c'est des délices.
C'est hyper intéressant et je m'en veux de devoir vous demander de répondre plus court.
J'ai vu le nombre de questions, c'est pour ça que je vous ai dit 15 minutes. C'est moyennement motivé.
La mise en place de la pair-aidance professionnelle Est-elle la seule demande de la part des personnes concernées ? Ou y a-t-il d'autres priorités qui permettraient d'améliorer le soutien, les moyens accordés à ce public ?
Alors, la pérédance professionnelle n'est pas forcément une demande de la part des personnes concernées. Certes, il y a la plupart des personnes concernées, les personnes qui vivent avec un trouble, ne sont même pas au courant qu'on existe. On est quelques centaines en France, c'est émergent. Après, la plupart sont très demandeurs quand ils savent que ça existe, d'avoir un accompagnement, un coup de main avec un pérédant professionnel. Les autres priorités, je ne saurais pas trop quoi vous répondre parce qu'il y a bien sûr d'énormes choses. Je dirais juste une chose pour avoir une conversation récemment avec une fondation là, ce matin sur l'aspect peut-être arrêter de nous positionner uniquement sous l'angle du handicap et nous voir aussi sur un angle, parce que le handicap est une situation qu'on traverse et ce n'est pas, on n'est pas des, on est encore dans cette racine du handicapé. Et ça me gonfle un peu. C'est-à-dire que oui, on a des situations de handicap, mais il y a énormément de situations où on est tout à fait à l'aise et où on parle trop, par exemple, et on parle longtemps. Mais du coup, on n'est pas handicapé de la parole, par exemple. Du coup, s'il y avait une possibilité d'actionner quelque chose pour que les politiques publiques, les GEM, la façon dont on oriente les subventions, dont on oriente le regard des médias, le stigma, qu'il soit autre chose que du handicap et qu'on soit aussi sur les potentialités qu'on a, ça me ferait bien plaisir.
Dans tout ça, Charline, quelle est la place de la santé publique ou de la promotion de la santé mentale ?
Et bah, du coup, c'est un peu ce que vient de dire Yann, donc merci. Pour moi, la place, plus globalement de la promotion de la santé mentale, c'est vraiment de permettre du coup, aux personnes qui sont concernées par les troubles psychiques, quelle que soit la gravité et la profondeur et la longueur, en tout cas, d'existence du trouble pour la personne, c'est vraiment qu'elles se sentent en capacité de faire un tas de choses. Et pour moi, promouvoir la santé mentale, c'est vraiment aussi... promouvoir pour ces personnes-là le fait qu'il y a, effectivement, c'est ce que tu disais Yann, tout un tas de situations dans lesquelles les personnes ne sont pas en situation de handicap et pour lesquelles le trouble psychique n'aura pas forcément d'incidence. Et donc, c'est en partie là-dessus. Et puis, c'est aussi la promotion de la santé mentale. Pour moi, c'est de faire prendre conscience auprès de toute la population que tout le monde a une santé mentale, que tout le monde peut traverser des moments de vie dans lesquels c'est plus compliqué, dans lesquels on se sent un peu moins bien, dans lesquels on aura potentiellement besoin d'une béquille comme on pourrait avoir besoin d'une béquille avec une entorse. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire bah voilà, qu'est-ce qui existe en termes de ressources sur la question de la santé mentale. Donc ça peut être auprès de ses proches, ça peut être auprès de professionnels du champ de la santé mentale. Donc c'est vraiment ça pour moi qui est le plus important et c'est en tout cas là-dessus que je travaille au quotidien et c'est aussi pour ça qu'on a eu cette idée aussi de monter cette émission, c'est de pouvoir permettre à des personnes qui sont très éloignées de ces questions de la santé mentale de l'entendre sur une radio, que en fait ces émissions existent, que les personnes concernées peuvent prendre aussi la parole, que des enfants de différentes écoles peuvent travailler sur cette question-là et donc c'est aussi ça qui est intéressant. Le champ de la santé publique, c'est vraiment, ça concerne vraiment tout le monde et c'est comment on peut permettre à chaque citoyen de se sentir bien dans l'espace dans lequel il évolue, c'est-à-dire son espace familial, l'espace public, ça veut dire aussi les liens avec les politiques de santé dont parlait Yann tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment tous ces espaces-là. Et donc, moi, en tout cas, ce que j'essaye de promouvoir au quotidien, c'est que la santé mentale ait la même place que toutes les autres thématiques de santé dans les questions de santé publique et que donc, effectivement, les financements soient orientés pour promouvoir les compétences, les capacités, les ressources des personnes autrement que uniquement limiter les handicaps, puisque c'est deux choses différentes.
Quelques questions maintenant sur les idées reçues sur les maladies mentales. Selon vous, Marie-Christine, et à travers vos expériences, quelle est l'attitude fréquente du public face à la maladie mentale et aux personnes concernées ? On entend souvent parler de peur, de rejet. Est-ce vraiment le cas ?
Alors, je crois qu'effectivement, c'est le cas. Globalement, les personnes dans la société, la plupart des citoyens, connaissent très peu les problèmes de santé mentale. Et c'est bien pour ça qu'effectivement, une émission comme celle d'aujourd'hui est absolument très, très importante. Et quand on ne connaît pas, eh bien, on a peur, on s'inquiète d'un certain nombre de choses. Et plus, effectivement, les questions de santé mentale seront abordées d'une manière générale et d'une manière positive dans les médias, dans les écoles, dans les formations, etc., moins il y aura effectivement de stigmatisation. Ça paraît évident. Et puis, c'est vrai que les choses ont quand même beaucoup évolué ces dernières années, mais il y a encore énormément de chemin à faire. Il y a encore effectivement beaucoup trop de gens qui considèrent effectivement que les personnes qui vivent avec des troubles psychiques n'ont pas leur place dans un certain nombre de lieux, comme par exemple dans des logements comme tout le monde, dans un travail comme tout le monde, etc. Et alors que, et Yann le disait très bien, en fonction de ces difficultés, on peut tout à fait vivre comme tout le monde et apprendre à vivre comme tout le monde et faire son chemin de rétablissement. Donc la connaissance est vraiment un point hyper important. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi un point de vue. C'est vrai que souvent, par exemple, dans les médias, quand une personne a pu être l'auteur d'une agression, on va tout de suite s'imaginer que c'est une personne qui a des troubles psychiques et on va mettre en avant le fait que cette personne, elle a effectivement peut-être eu quelques troubles psychiques dans le passé ou auparavant. Et cette mise en lumière uniquement du côté négatif et d'un côté qui est finalement très peu fréquent chez les personnes qui vivent avec des troubles psychiques a eu un effet extrêmement négatif auprès du public. Il faudrait vraiment qu'on parle d'une autre manière dans les médias des personnes qui vivent avec des troubles psychiques et qu'en particulier on puisse parler beaucoup de leurs capacités, de leurs compétences, de ce qu'elles ont envie de faire, de ce qu'elles apportent à la société.
Yann, quelque chose à ajouter ?
Non, c'est OK pour moi, vous avez fait un bon panorama.
Charline, est-ce que des actions organisées comme celles qui l'ont été autour de l'ouverture de la masse, avec les rencontres entre les élèves et les résidents, le travail fait avec les deux écoles et le collège sur la santé mentale, et cette émission de radio sont des actions efficaces pour changer le regard du public?
Oui, c'est effectivement dans toutes les recherches scientifiques qui sont menées sur comment changer le regard du public sur les questions de santé mentale, que ce soit les questions de handicap, le trouble psychique ou plus globalement parler de la santé mentale de tout un chacun. C'est justement sur ce genre de projet qui mène tous les aspects de la vie d'une personne que c'est le plus efficace.
Quelles sont les actions les plus efficaces pour changer les mentalités du public sur les personnes ?
Alors du coup, c'est en partie un peu ce dont on vient de dire. Donc c'est des éléments qui sont des événements qui sont à la fois des événements grand public qui développent à la fois, qui reprennent un peu en lien sur les questions de peur, de rejet, finalement ces idées reçues sur la question des troubles psychiques. Et c'est prendre ces idées reçues un peu à bras le corps, c'est-à-dire de dire, bon, bah, dans la population générale, on a tendance à penser que une personne qui a des troubles psychiques est dangereuse. Et c'est aussi de dire, eh ben, en fait, dans les chiffres, ces personnes concernées, elles sont bien plus souvent en difficulté envers elles-mêmes et elles ont beaucoup plus souvent de moyens d'être avec des comportements à risque avec elles-mêmes plutôt qu'envers les autres. Et du coup, c'est avant tout aussi prévenir ces éléments-là en informant aussi la population. Donc, il y a à la fois donner des éléments que je pourrais nommer des éléments de statistiques, finalement, qui permettent de prendre un peu de recul sur ce qui arrive. Et puis, il y a aussi faire des rencontres. Et c'est en ça que l'émission de radio et que le projet qui a pu être fait avec les deux écoles et le collège sont un peu centraux. C'est de, quand on rencontre des personnes qui ont des troubles psychiques, qu'on leur pose des questions, qu'on discute avec elles, c'est là où on se rend compte qu'en fait, elles sont un peu comme nous. Et que donc, elles ont aussi leur mot à dire, qu'elles ont aussi... voilà, leur façon de fonctionner et que on peut du coup finalement dialoguer avec elles et que donc on n'est pas si différents et que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Du coup, on peut intégrer toutes ces personnes-là à la vie quotidienne, et c'est aussi comme ça qu'on peut plus efficacement finalement changer les mentalités en provoquant ces temps de rencontres. Et plus ces rencontres, et ça c'est le dernier élément important, plus ces rencontres sont répétées dans le temps, et plus durablement finalement les mentalités vont changer. Et puis le dernier élément des quatre éléments, le dernier qui est l'élément principal aussi pour faire changer le regard, c'est que les personnes concernées elles-mêmes se saisissent de ces questions-là et puissent aussi en parler publiquement. Puisque quand une personne prend la parole sur ce qu'elle vit, c'est aussi comme ça que les personnes se rendent compte de l'importance des difficultés et de comment elles peuvent finalement changer leur regard pour améliorer la vie de ces personnes-là finalement.
Quelles sont les personnes à mobiliser en priorité pour faire évoluer le regard autour de la maladie mentale ?
Et ben ça, c'est une grande et vaste question. Il y a plusieurs personnes à mobiliser en priorité. Donc, comme je viens de le dire, je pense que mobiliser les personnes concernées et leur laisser une place dans tous les projets qui les concernent, ça me semble essentiel. Et puis aussi, travailler avec les pouvoirs publics, alors avec les élus, avec les ministères, avec le gouvernement et avec toutes les directives finalement de santé, toutes les lois qui sont prises pour laisser la place aussi aux personnes concernées et pour informer, parce que finalement, comment est-ce qu'on peut faire des lois qui soient équitables et qui soient efficaces si on ne sait pas comment ça se passe dans la vie de ces personnes-là ? Donc pour moi, c'est vraiment aussi les personnes les plus, parfois les plus compliquées à mobiliser, en même temps essentielles, c'est de pouvoir mobiliser les élus en plus des personnes concernées. Et puis bien sûr, améliorer la formation des professionnels qui vont travailler avec des personnes qui sont concernées par les troubles psychiques, puisqu'on ne peut pas être formé à tout le temps. Et du coup, c'est aussi parfois quand on arrive dans une structure qu'on découvre certaines maladies et certaines problématiques. Et c'est là où c'est important de faire des formations continues auprès des professionnels qui travaillent dans ces structures-là.
À votre avis, que manque-t-il d'indispensable pour opérer un changement de mentalité face aux maladies mentales ?
Eh ben, je dirais que ce qui manque d'indispensable vraiment, c'est d'en entendre plus souvent parler et de faire plus souvent des temps de formation, des temps d'intervention, des temps de rencontre aussi, que ce soit des rencontres culturelles, conviviales, dans le cadre de journées comme la Journée mondiale de la santé, qui est du coup le jour de cette diffusion d'émission. Et puis aussi intégrer finalement la question des troubles psychiques, de la maladie mentale, de la santé mentale en fait, dans tous les aspects de la santé et de nos vies.
Et pour vous Yann, que manque-t-il ?
Sortir de l'isolement et d'une sorte de communautarisation à travers le handicap, à se dire voilà, on est dans un entre-soi, parce qu'il y a des structures maintenant. Il y en a, enfin, en tout cas dans les grandes villes, il y a un bon tissu de structures, mais cet entre-soi, je pense que ça va complètement en complément avec ce que tu disais. Il y a un moment où, tant qu'on n'est pas dans l'échange avec les autres, on ne peut pas créer un lien de confiance où les autres vont continuer à projeter des stigmates sur du vent, en fait, à ne pas savoir qui on est. Il faut basiquement qu'ils nous rencontrent, en fait, et que nous, on aille vers eux. Donc c'est à nous aussi de bouger. Donc il y a quelque chose aussi dans le changement de paradigme. C'est à nous aussi d'aller vers les gens. Faut pas, c'est pas en faisant une porte ouverte dans un groupe d'entraide juste qu'on va accueillir les personnes. C'est à nous d'aller vers eux. Donc c'est ce qu'on faisait aujourd'hui, là, mais ce que j'ai fait là aujourd'hui. Mais c'est aussi un changement de mentalité, arrêter d'être consommateur. À dire par exemple, l'État en fait pas assez pour nous. Dire, qu'est-ce qu'on fait nous pour que ça change en fait aussi. Il y a vraiment quelque chose dans le... Parce qu'on a quand même pas mal de capacités quand on se bouge. On peut faire des grandes choses.
Voilà. Marie-Christine, un dernier élément à apporter sur ce qui pourrait aider au changement de mentalité ?
Alors, je rebondirai sur ce qu'ont dit Charline et Yann. C'est vrai que la place des personnes concernées par des troubles psychiques est absolument primordiale. C'est vrai que se constitue petit à petit un certain nombre de collectifs de ces personnes qui effectivement se rencontrent pour échanger sur qu'est-ce qui devrait changer dans la société pour les aider à mieux vivre avec leurs difficultés. Et donc, elles peuvent construire de cette manière-là des plaidoyers et pouvoir rencontrer les élus, les différentes structures, les hôpitaux, les responsables de santé, l'agence régionale de santé, etc., pour pouvoir promouvoir ce que elles, ces personnes-là, considèrent comme absolument indispensable à voir changer pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Et cette question des collectifs de personnes concernées est vraiment un point important qui est en train de se développer. Je crois que ça aura un effet très très positif justement sur l'évolution de la société.
Merci à tous les trois pour votre participation à cet événement.
Merci.
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 La masse de Clavaisol ?
Calade. Un micro pour un établissement nouveau.